Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, 21h-22h30, Didier Maistre.
L'enfance, te souviens-tu, est perdue à jamais, l'odeur de la pluie dans la cour de l'école. Les jeudis parfumés, les embrassades folles ont rejoint le cortège des bonheurs oubliés. Les vaisseaux séditieux te transportent sur des mers glaciales et ridées par le vrai mauvais sang qui torture et durcit tes veines grises et amères dans ces matins brumeux où chavirent les absents. Mais ne t'en fais pas, non, ne te bile pas, c'est juste une bulle de malabar qui claque au fond de ta mémoire. C'est juste un stick de carambar qui glisse et s'immisce dans la nuit noire. Maintenant, tu essaies de fixer les sourires dans l'album inédit de tes images secrètes qui s'effacent trop vite et reviendront peut-être si tu sais retrouver l'épreuve de tes désirs. Mais l'innocence douce et la tiédeur des draps ne sont plus que des phrases insipides, insolites, comme ces livres alignés que l'on ne lit pas et dont on dit pourtant que tous les mots palpitent. Bonsoir les amis, petite devinette, je ne vous dis pas de qui est ce texte. On a failli pas se rencontrer puisque la technique nous a joué des tours, mais vous étiez en bonne compagnie avec REM et donc finalement nous sommes venus à bout des machines, Rage Against the Machine, et pour l'instant nous vainquons, nous gagnons, nous remportons le combat contre les machines. Welcome my son, welcome to the machine, where have you been? It's alright, we know where you've been, chantait les Pink Floyd, c'était en 75. Nous gagnons contre les machines, mais cela va-t-il durer, puisque déjà les robots envahissent notre vie, les objets connectés, mais les drones aussi, qui regardent si nous faisons tout bien, comme nous l'édicte l'exécutif, si nous mangeons bien notre purée en regardant décoller la fusée, comme le chantait Charlie Lee Couture. Nous mangeons bien notre purée en regardant décoller la fusée. Nous lavons les mains plusieurs fois par jour. Nous respectons les distances. Nous adoptons les gestes barrières. Et nous nous relavons les mains. Et puis, nous écoutons un petit peu les radios officielles. Puis, nous sommes atterrés devant les réseaux sociaux. Alors, heureusement que nous avons la loi Avia qui va nous sauver du trépas. Oui, nous lavons à nouveau les mains. Nous nous lavons aussi un petit peu les oreilles qui sont cette fois expurgées de tout mot valise, de tout mot interdit et de tous les mots interdits aussi, M-A-U-X. Merci aux exécutifs de veiller sur nous, exécutifs qui se succèdent les uns après les autres, qui épure et appure à la fois notre vocabulaire et les comptes de la nation. Et puis nous sommes dans un monde idéal, exfiltré, un monde magnifique. Vous en avez rêvé? Eh bien, les gouvernants l'ont fait. J'allais dire, Philippe, c'est déjà demain. Emmanuel, comme un soleil. 0-826-300-300, il faut toujours lutter, les amis, contre les machines et ne jamais s'avouer vaincu, parce qu'une machine n'a rien d'intelligent, c'est l'intelligence que nous y mettons et elles sont programmées. Donc il faut être plus intelligent que la machine pour ne pas sombrer dans un monde à la Matrix. Mais vous nous direz sur Sud Radio si nous sommes déjà dans un monde un petit peu à la Matrix. Dans ce nouveau monde, est-il le meilleur des mondes ou le moins pire des mondes ou le plus mauvais à l'exception de tous les autres, sauf que les autres mondes, nous ne les connaissons pas. Nous rêvions d'un autre monde où la Terre serait ronde et la Lune blonde, comme chantait l'ami de téléphone Jean-Louis Aubert. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et tout de suite, nous avons Nono qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Nono.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, comment ça va?
Ça va.
Ce confinement, c'est bien passé? Vous n'avez pas trop pris de poids? Vous avez bien réfléchi? Vous avez les idées claires pour l'avenir? Pour ce qu'il faudra plus faire? Pour ce que vous avez envie de faire? Pour ce que vous n'avez pas fait? Est-ce que cette période a été propice pour vous?
Alors, cette période, pour moi, a été une période où il fallait vraiment réfléchir. Une période qui donnait des leçons, qui m'a donné beaucoup de leçons, et je pense que le monde entier a reçu quelques leçons, ça c'est un peu ça. Moi en fait, j'ai vraiment pas connu le confinement. parce que j'étais aussi, je n'ai pas arrêté de travailler, j'étais du loup partout. Donc le confinement, je ne l'ai pas vraiment connu, malgré qu'il y avait des...
Vous faites quel métier?
Je suis informaticien, spécialisé dans les logiciels médicaux.
D'accord. Ah ben vous n'avez pas chômé là, j'imagine, oui.
Voilà, oui. Donc voilà.
Et alors, vous vouliez nous parler sur Sud Radio de quel sujet ce soir?
Alors, je voulais parler aujourd'hui de ce qui m'agace, de notre gouvernement.
D'accord.
Quand je parle de gouvernement, c'est la majorité, tout le monde et tout le reste. Alors, en fait, c'est ce mensonge qui n'arrête pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont plus honte. Comme on dit, ils sont peut-être nés avant la honte, tous ces gars, toutes ces femmes et toutes ces pères de famille. Et ils n'ont pitié de personne. Ils continuent à mentir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je trouve vraiment ça aberrant. Vraiment, c'est vraiment un manque de respect au peuple français. Alors, s'ils ont menti, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a un reportage qui est passé sur BFM TV où le président de la République, lui et Monsieur Emmanuel Macron, il dit qu'il n'y a jamais eu de rupture de masque.
Oui, j'ai entendu ça hier, effectivement.
Je me pose la question si, en sortant certaines choses, est-ce qu'il se rend compte de ce qui se passe, de ce qu'il dit? Est-ce qu'il est vraiment en lui? Est-ce qu'il y a un autre esprit qui l'anime? Est-ce qu'il pense que les gens sont cons ou bêtes? Mais je voudrais vraiment que ce gouvernement redescende pour une fois.
Vous savez... Oui. Quelqu'un hier, c'est justement, je retweetais ce morceau d'anthologie quand même assez incroyable où effectivement le président de la République nous expliquait doctement qu'en fait il n'y avait jamais eu en France de pénurie de masques, que tout avait été excellemment géré de la façon la plus adéquate, hein, c'est ce qu'il a dit, et que en fait ils avaient quelque part adopter une stratégie, parce qu'il y avait une stratégie. Nous, on avait pensé, dans notre infinie bêtise, que cet exécutif naviguait à vue. Pas du tout, il y avait une stratégie. Et en fait, ils ont, pour pas que les gens se précipitent sur les masques, ils ont, d'une certaine manière, organisé la restriction, organisé la pénurie. C'est lui-même qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Il a dit, on a adopté des mesures restrictives de façon que prioritairement soient servies les personnes qui en avaient le plus besoin, notamment les personnels soignants. Or, les personnels soignants, pendant de longues semaines, n'étaient pas servis. On a vu toutes ces images et beaucoup de coups de gueule de ce personnel soignant qui allait travailler vaillamment, mais quand même la peur au ventre, avec des sacs poubelles et des masques de fortune, puisque les masques, les pharmacies avaient été réquisitionnées, mais personne n'est venu chercher les fameux masques, alors que beaucoup en avaient besoin. Et en fait, le confinement a été sans doute une stratégie de l'échec, puisque nous n'avions pas de tests, pas de masques, pas de respirateurs artificiels, pas de place suffisante dans les hôpitaux. Donc, il a fallu organiser une espèce de plateau pour ne pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Et voilà, et finalement, où nous en sommes aujourd'hui. Effectivement, tout le monde a vu. Alors, peut-être que nous avons été victimes, je sais pas, d'une hallucination collective, ça peut arriver, hein, comme dans les sectes, à un moment, on croit voir une espèce de dieu descendu sur Terre qui va toutes nous envoyer dans un voyage intergalactique. Et en fait, des masques, il y en avait, mais on ne les a pas vus, on n'a pas été bons, on ne les a pas trouvés.
Qu'est-ce que alors, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que, moi, je suis allé dans plusieurs pharmacies, moi, je vous le dis, où c'était marqué quand une pharmacienne m'a dit, on a une circulaire qui a été envoyée par le gouvernement de ne pas vendre des masques. Moi, je vous le dis,
absolument.
Je suis conférent, voilà. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et après tout ça, vous avez vu le nombre de morts qu'on a ramassé là et qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris l'initiative des autres pays aussi moins pauvres que la France? Ils ont pris des résolutions aussi qui aujourd'hui ont payé, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, on continue à payer encore. On a des anciens qui sont partis. Il y a des gens qui partent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais s'ils avaient mis peut-être... Mais les masques, c'est quoi ça? Mais c'est rien. C'est rien des masques. Ce qui m'a encore choqué, c'est quoi? C'est que toutes ces enseignes de grande distribution, Leclerc, Carrefour, et Casino et tout le reste, tout le monde à l'époque, ils disaient qu'ils n'avaient pas de masques. Mais quand le gouvernement a dit, OK, d'accord, les grandes enseignes vont vendre des masques, il fallait voir des centaines de milliers de masques, les enseignes ont sorti. Mais ils ont produit ces masques quand?
Alors ces masques arrivent pour beaucoup de Chine, hein, il faut quand même le savoir, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la question que vous posez. Comment se fait-il que, en fait, il y ait une telle pénurie et puis d'un coup une telle abondance? Alors si les pouvoirs publics ont organisé la restriction pour que tout le monde soit servi, les personnels qui en avaient le plus besoin, bah, effectivement, en fait, quand on a été déconfiné, finalement, au moment, je dis pas qu'on en a moins besoin, mais c'était quand même pas le pic, on trouve les masques. Et j'ajouterai un troisième point subsidiaire, mais pas tant que ça. Vous avez vu que beaucoup d'enseignes, il fallait réserver les masques sur Internet pour les détenteurs de cartes de fidélité, ce qui est absolument illégal. Hein, on ne peut pas faire ça. C'est un refus de vente. Mmh. Il n'y a pas à faire de partition entre les gens à carte de fidélité ou pas carte de fidélité. C'est un moyen tout à fait assez subtil pour récupérer les données, hein, pour voir les habitudes des consommateurs et ensuite pour vous proposer de façon marketée sur votre email des produits qui correspondent à votre profil. Et après on nous dit mais c'est par altruisme et c'est pour que justement la grande distribution va pas faire de profit là-dessus. La moindre des choses c'est de se poser la question que vous posez, parce que évidemment des millions de Français se la sont posés cette question. Pénurie, 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 abondance, voilà. Abondance, abondance. Le tout en même temps, et malheureusement avec du décalage. Quand on en avait besoin, il n'y en a pas. Quand on en a moins besoin, il y en a plein.
Voilà. Alors, je vais revenir déjà par le départ. Je vais un peu laisser un peu là, le côté virus et tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Moi, je me souviens quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir, tout le discours de mensonge qu'il a tenu aux Français. Tout ce qu'il a dit qu'il n'allait pas toucher, il l'a fait jusqu'aujourd'hui. Donc j'aimerais que ce garçon, pour moi c'est un garçon, qu'il se dise, qu'il sache qu'il a un peuple. Ce peuple qu'il a élu, c'est le même peuple qui va le descendre. Donc où il est là, il est en mauvaise posture. Toute la majorité, ils sont en mauvaise posture. Moi je l'ai voté, moi j'avoue je l'ai voté, mais qu'il sache que où je suis, moi j'ai peur, hein. Moi je vous assure, ils ne pourront plus passer là ici. Je vous assure, moi je suis dans le Puy-de-Dôme. Ils ne vont plus passer, ça c'est sûr. Ils ont trop menti, et je vous assure, et ça fait boum ici, tout le monde en parle. Donc, il va falloir qu'ils prennent conscience, qu'ils redescendent sur Terre, qu'ils reconnaissent au moins qu'ils ont... Tout le monde fait des erreurs. Mais quand on fait une erreur, on essaie de corriger celle qui va venir après, parce que tout le monde, tous les gouvernements ont failli, tout le monde fait des erreurs, tous les gouvernements ont toujours chuté et tout, mais qu'ils essaient de se relever d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que le peuple français a perdu confiance à ce gouvernement. Vous voyez un peu. Moi, j'ai l'impression que
vous savez, j'ai repris cet extrait parce que quand j'ai dû le regarder plusieurs fois. Effectivement, vous citiez le président de la République dans cet extrait un peu surréaliste, hein, où il dit qu'on ne manquait pas de masques et que tout a été parfaitement géré de ce point de vue. Et j'ai retweeté avec l'extrait. Donc, il y a un internaute qui très justement m'a mis une citation, alors je l'ai plus tout à fait en tête, de Hannah Arendt, qui disait en fait que vous savez ce que la question que vous posez, c'est que quand on est toujours quand on balance comme ça, c'est fake news, parce que qui balance des fake news à part les gouvernements et les médias qui en dépendent et qui sont à son service. Les fake news, c'est essentiellement, enfin les fake news qui réussissent, hein, je veux dire les fake news qui ont une certaine aura, une certaine résonance dans la société française, mm-hmm. C'est évidemment les politiques et les médias mainstream qui les propagent. Bon. Donc cet internaute citait Hannah Arendt qui disait en fait que quand on ment tout le temps, on met une espèce de tension, on pomme un petit peu les citoyens et on ne sait plus, avec ce bombardement incessant d'informations venues de tous horizons, quel est le vrai du faux, etc. Et on maintient les gens dans une espèce de folie comme ça, de maelstrom, de grand flou, et ensuite on utilise la peur pour manipuler, et donc exactement. Tout vaut tout, hein, tout est relativisé, le mensonge, la vérité, le tout c'est de l'affirmer en ayant l'air sincère.
Moi je pense que c'est vrai, et en plus, je vais aller un peu dans un autre sens, vous savez, les médias, il y a médias et médias, nous savons tous, il y a certains médias qui sont de connivence avec le gouvernement. Je vais citer ce BFM TV, ITélé, CNews, tout ce monde-là, ils sont de connivence, moi, tout le monde le sait. C'est des gens qui bouffent ensemble, qui sont ensemble. Ce sont c'est des gens qui disent pas la vérité. Moi, je vous remercie, Sud Radio, vous êtes un peu, vous êtes clair. Vous dites vraiment ce qu'il faut dire quand il faut le dire. et vous ne mâchez pas les mots. Ça, je suis d'accord, vous êtes vraiment un média qui tourne pas. Voilà un peu. Donc, quand au jour d'aujourd'hui, M. Macron dit il n'y a pas eu, ceci, cela, il n'y a pas eu, maintenant il veut donner des médailles aux soignants, et c'est pas des médailles, les soignants ne veulent pas de médailles, ils veulent des moyens pour bosser. Vous voyez un peu, le système de santé, ils l'ont tué, ils sont en train de le tuer, il agonise là. Et je pense que ce virus, vous voyez un peu, est venu, il faut que ce gouvernement ouvre les yeux, parce que ce virus, vraiment, il va falloir que le système de santé qu'il remonte, vous voyez un peu, parce que c'est eux qui ont tout coupé, c'est eux qui coupent tout, qui réduisent tout, et aujourd'hui, ils appellent les étudiants pour venir bosser et tout, mais vous bossez quoi? On n'a pas besoin de médailles, on n'a pas besoin d'applaudir les gens veulent travailler, moi, encore bravo à tout ce personnel soignant qui a été au devant de la scène pour tous ces Français, vous voyez un peu, mais ils n'ont pas de moyens, vous pensez que c'est pas des soignants, ce sont les gouvernements. Déjà, le gouvernement précédent, il a fait ce qu'il a fait, mais celui-ci, il vient encore couronner encore. Donc, qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont en train de bien gérer ce truc.
Non, mais c'est vrai que là, dans tous ces métiers à vocation, il y en a beaucoup, hein, des métiers à vocation, et c'est encore heureux. On ne les fait pas pour s'enrichir. Ça, c'est tout à fait évident. Bon. Les gens qui pratiquent ces métiers, qui embrassent ce genre de carrière, c'est pas pour faire du fric, c'est pour aider en général leurs prochains, leurs voisins, pour faire quelque chose, mettre leur pierre à l'édifice, pour faire avancer la société. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, hein, qu'on a en nous, et chacun fait du mieux qu'il peut, voilà. Et donc il y a presque un côté, je dirais, moi depuis le début. Je l'ai dit souvent, mais je sais que c'est je suis pas le seul à penser cela, à ressentir cela en tout cas. On est un peu mal à l'aise quand vous avez comme ça à 20h tous les soirs les gens qui applaudissent, les personnels soignants. Bon, c'est bien la considération, c'est déjà un premier pas. Surtout que tous ces gens-là ont été quand même tapés, martyrisés, pas écoutés, insultés, humiliés pendant un an. On se rappelle tous de nombreuses manifestations dans toutes les rues de France. Bon, ça c'est tout à fait sûr. Mais ces gens ont besoin de considération, et la considération, bah, ça passe aussi par des espèces sonnantes et trébuchantes, une reconnaissance des métiers, c'est la moindre des choses, hein, parce que si vous payez pas les gens en leur disant que c'est formidable, il y a comme une espèce de hiatus, surtout quand on voit le niveau des impôts, des prélèvements obligatoires et de l'argent que tous les citoyens payent, verse pour l'hôpital public, pour l'éducation nationale, pour la justice, et de manière légitime, quand on voit le taux des prélèvements obligatoires, impôts directs, impôts indirects, il y a beaucoup de citoyens qui se disent, mais où va l'argent? Comment ça se fait que c'est si mal géré? Pourquoi ces premiers de corvée, ces premiers de tranchée ne sont pas récompensés à leur juste valeur? Bah, l'argent, c'est très simple, où il va, hein. Il y a un certain nombre de comités théodules, d'agences et d'institutions dans tous les sens, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et beaucoup de fonctionnaires superfétatoires qui ne sont pas au contact du terrain, mais qui font des études, qui font des statistiques, et tout ça coûte très très cher, et sans doute c'est le principal chantier qu'il y aura à entreprendre après que ce virus aura été terrassé ou sera mort de sa belle mort, puisque nous n'en savons rien à ce jour et à ce moment précis.
Alors, ben, je vais revenir à quelque chose, je vais revenir au traitement du docteur Raoult. Vous savez, le docteur Raoult, c'est un grand chercheur, c'est un scientifique, c'est un gros cerveau. Mais je pense que comme ce monsieur, il est aussi droit, il n'est pas entré dans le petit groupe de tous ces capitalistes. Moi, je les appelle, excusez-moi du terme, moi, je suis un peu cru, hein. Il faut qu'ils le savent, qu'ils le sachent tous, ce sont des capitalistes. Donc, si, au jour d'aujourd'hui, le professeur Raoult, il a dit, pour lui, il pense que d'ici fin juillet, je pense, si je me souviens bien, le virus, il va commencer à disparaître. Mais c'est le cas. On est en train de le vivre en live, en direct. Vous voyez un peu.
Alors, attention. Pour l'instant, soyons prudents. Nous n'en savons rien. Hein. On ne sait pas s'il va disparaître.
C'est vrai que
On voit une décrue. Il y a deux éléments. On voit une décrue. Ça, c'est factuel. Et on a appris aujourd'hui que Alors que le président Trump disait qu'il avait peur de rien, qu'il portait pas de masque, puis après il a dit qu'il mettait un masque. Enfin bon, c'est un personnage un peu fantasque,
Ah ouais,
qui
lui,
de mon
c'est...
point de vue, mais à mon avis, c'est exactement ce qu'il fait, et il est assez fort aussi dans la communication politique. Mais nous avons appris aujourd'hui que depuis 10 jours, n'est-ce pas, il se traitait à la chloroquine, et le professeur Raoult a dit lui-même qu'il l'ignorait. Donc voilà les deux éléments du jour, quoi.
Voilà. Alors, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que il faut que chacun prenne sa place. On ne peut pas être capitaine d'un bateau et être, je ne sais pas, cuisinier en même temps. Que le gouvernement, tous ses ministres et tout le reste, tout le blabla, là, qu'ils laissent le boulot des scientifiques aux scientifiques, les médecins aux médecins, et tout ça, voilà. Que les médecins et les scientifiques fassent leur boulot et que le gouvernement fasse son boulot. Parce que moi, j'ai eu l'impression que les scientifiques ont, les politiques, ils ont bloqué un peu tout ce que les scientifiques voulaient faire, vous voyez un peu. Ils ont imposé leur rythme. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on ait plus de morts. Vous voyez un peu? Et ça ne fait que s'accroître. Il y a des gens qui ne font que partir. Vous voyez un peu? Parce que quand le docteur Raoult dit, bon voilà, ça peut fonctionner comme ça peut fonctionner comme ça. Dans un autre pays, on dit oui, ça fonctionne là-bas. En France, on dit, bon voilà, il y a des effets secondaires et tout. Mais est-ce que les effets secondaires de ce traitement sont plus néfastes que le Covid-19? Non, mais je ne pense pas. Vous voyez un
Nous
peu
verrons, nous
tout.
verrons, cher Nono, nous verrons. On va pas tarder à le savoir, hein, de toute façon, puisqu'il y a un certain nombre de protocoles,
Bah
et
oui,
puis
c'est
il y
ça,
a
voilà.
beaucoup de pays
Excusez-moi,
aussi
mais je crois que c'est
qui
ce
ont eu.
protocole, c'est ce protocole qui fait en sorte qu'on s'enfonce. Parce qu'il y a trop de la bureaucratie, il faut toujours suivre ceci, il faut suivre cela. Ils ont mis une étude, je ne sais pas, Discovery, je ne sais plus trop là, mais où en
Discovery,
sommes-nous
oui.
aujourd'hui? Ils ont donné des dates, tout ça devait sortir, mais où en sommes-nous? Mais il n'y
Alors
a rien
oui, ben les dates,
aujourd'hui. Vous voyez?
on ne sait toujours pas quels sont les
Ils ont
résultats de
injecté des
ce
millions
protocole.
d'euros, ça c'est sûr. Des millions d'euros, ils ont injecté, mais depuis combien de temps? Mais voilà, on n'a rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille un peu, qu'ils comprennent qu'ils sont. En gros, bah, s'ils vont créer le vaccin et tout, ce n'est que, c'est juste parce qu'il faut que des sous rentrent, il faut vendre le vaccin, il faut faire ceci et tout. Pourtant, il y a des traitements qui peuvent passer. Bon, déjà, le confinement, il nous a donné un bon résultat, ça c'est sûr. Mais en même temps, on cherche les vaccins, mais exploite aussi d'autres pistes. Mais vous voyez, le gouvernement, il a bloqué toutes les autres petites pistes qui sauvent même des vies jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est quoi ce gouvernement? Ils veulent toujours. Bon, excusez-moi, je suis un peu émotif, hein, je suis comme ça, excusez-moi si je parle comme ça, mais je suis un peu,
Merci.
gêné. Voilà.
Merci Lolo, en tout cas, on a bien compris, pour votre témoignage. Allez, on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. On va passer une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après ça.
Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, 21h-22h30. Didier Maistre.
Vous êtes bien, les amis, sur Sud Radio. Il est 21h30. Nous sommes encore ensemble pour 1 heure. N'hésitez pas à appeler Sud Radio 0826 300 300. Et nous avons tout de suite Michel qui, lui, nous appelle de Nîmes. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir Didier, j'espère que ça va bien.
Bonsoir.
Paris?
Ouais, très bien.
Ouais.
Ça va, tout va bien.
Ah, belle journée aujourd'hui. Belle
Ah oui,
journée,
là, on a beau
soleil,
soleil,
tranquille.
tout. Voilà. Ça fait du bien au
Et ben
cœur
voilà.
et au corps.
Ah, oui.
Voilà.
Voilà, moi je confine dans le sud, mais normalement je suis à Paris. Mais enfin bon, j'ai eu cette possibilité de me retrouver là, juste avant le confinement, alors j'y suis resté. Voilà, moi j'ai un
Ben voilà,
rêve, j'aimerais
Nîmes,
bien voir.
très belle ville, très belle ville.
Ah oui, c'est sympa. J'aimerais parler de mon rêve de demain, comme tout le monde en parle en ce moment, en disant c'est le moment, voilà, on a vécu quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Non, moi j'ai des idées. Je me suis dit, à force de voilà, d'en parler à tout le monde depuis 15 ans, 20 ans, je me dis maintenant il faut peut-être en parler à des endroits un peu plus où il y a un peu plus de monde qui peut écouter ou faire passer. Alors moi déjà, je voudrais dire quelque chose à propos du travail. On va commencer par là. Alors, c'est pour moi le travail. Il y a des gens qui travaillent et puis il y a des gens qui ont une activité. Ce sont deux choses différentes. Ceux qui
Absolument.
ont un travail, c'est pas forcément toujours agréable. Et puis le travail, pour moi, c'est un peu synonyme de labeur. Labeur, c'est un peu de la souffrance. Hein. On se lève le matin, on n'a pas forcément envie d'aller travailler, et on y va avec des horaires bien particuliers.
Et puis, vous savez, j'en parle dans le bouquin, dans mon dernier bouquin, et un très grand chef d'entreprise qui m'a dit un jour, mais j'ai jamais, et toujours en activité, hein, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Travailler, c'est perdre son temps contre de l'argent. Exactement. Je me suis toujours occupé. Voilà. Et donc, il faut faire en sorte de faire coïncider ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire pour les autres. On le fait pour, il faut être bien soi-même. Mais si on ne s'épanouit pas dans quelque chose pour les autres, pour être utile, parce qu'il y a toujours cette notion d'utilité, parce que l'homme est un animal social, et si on est centré autour de son petit nombril, on tourne vite en rond, parce que c'est pas bien grand le périmètre. Et donc voilà, on essaie de s'occuper en étant utile, en faisant quelque chose pour autrui. Et moi, je trouve que ça, c'est une vie d'honnête homme, une vie accomplie quand on arrive à ça, mais c'est pas toujours évident.
Et ben voilà.
Bien que la solution soit en nous, la solution.
Et c'est pour ça, Didier, parce que comme c'est pas forcément quelque chose d'évident, bon, moi j'ai eu cette chance d'avoir toujours fait ce que j'ai voulu, même dans une grande entreprise. Même si je suis au chômage, j'essaye de faire quand même les choses que j'aime. Mais en tout cas, quand on a une activité, c'est génial. Alors quand on a un travail, il faut absolument qu'on aille travailler pour gagner des sous pour qu'à la fin de du mois on puisse payer les charges et puis le minimum, manger, enfin plein de choses. Là, c'est donc du labeur et c'est donc de la souffrance. Alors voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est arrêtons de penser que l'impôt sur le travail, c'est normal. Vous tous qui travaillez durement, vous ne devriez même pas avoir à payer d'impôt. Ce n'est pas normal, l'impôt sur le travail. Vous savez, on peut aller jusqu'à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. On peut appeler ça du travail. Et encore, quand vous êtes cadre, vous avez des horaires qui sont même pas forcément connus. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes cadre d'entreprise. Vous avez forcément, enfin, maintenant peut-être plus, mais avant, vous aviez forcément un salaire qui était au-delà de 3 500 € brut par mois. Parce que vous étiez cadre. Aujourd'hui, je crois qu'on peut, même si on est cadre, on peut ne pas avoir forcément cette somme-là, ce qui est triste. En tout cas, voilà, moi, ce que je veux dire, c'est déjà stop, plus d'impôts sur le travail. Et arrêtons de penser que c'est normal. On a, depuis 1914, où on a dit, bon, il faut aider l'effort de guerre. Arrêtons de penser à ça. Voilà, ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Après.
Oui,
après,
et puis, il faut bien dire, Michel, qu'il faut quand même financer la vie publique, la vie collective. Alors voilà, justement, parce que c'est très intéressant, parce que moi j'ai une idée assez précise aussi, mais peut-être alors, qu'on a la même, allez-y.
Alors ça serait bien qu'on se rencontre un jour, mais enfin moi tout petit dans mon coin, je sais pas si je rencontrerai quelqu'un. En tout cas...
Oh là là, moi voilà, je suis pas très grand non plus, hein, vous savez.
L'impôt, alors voilà, l'impôt on en a parlé. Ensuite les charges sociales. Ah, je me suis dit, mais c'est génial, il y en a un qui a parlé de ça, plus de charges sociales, ni de charges de retraite complémentaires, ni rien sur les salaires en entreprise, c'est-à-dire que vous avez forcément, le salaire il va augmenter de 25%, 30% même, je ne sais plus à peu près, surtout que ça c'est des pourcentages à l'envers, et puis l'entreprise, elle va gagner de l'argent, l'entreprise, parce que quand elle paye, elle donne un brut de 1 500, ça lui coûte 3 000. Donc, si vous enlevez tout ça, mais je vais vous dire comment on fait après. Et j'ai entendu un gars du PR, je sais pas, numéro 2, 3 du PR, l'année dernière, qui a sorti ça. Je me suis dit, mais il a piqué mon idée, mais c'est génial. Bon, qu'il soit du PR, j'en ai rien à foutre, parce que moi, je suis apolitique. Partout, il y a des gens bien et partout, il y a des gens nuls. Mais voilà, déjà, il faut arrêter. Vous avez plus de travail au noir. Vous avez plus de problématiques. Après, vous savez ce que vous faites? Vous allez récupérer l'argent ailleurs. Vous allez demander à ce que les Français, puisqu'ils avaient l'habitude de faire des déclarations, mais ils continuent à faire leurs déclarations. Puis maintenant, on peut tout savoir tellement rapidement. Et en fait, on va faire un impôt sur les éléments de patrimoine. C'est-à-dire tout ce que vous avez, non pas...
Ah, je crois qu'on a, On a perdu Michel, c'est le mot patrimoine, hein. Vous savez, c'était Gaston Lagaffe, lui qui était allergique au mot travail, il éternuait. Et là, peut-être que les réseaux, quand on dit patrimoine aujourd'hui, les réseaux disjonctent. Allez, on va prendre tout de suite Christophe qui, lui, nous appelle de Moselle, une région qui est vraiment dans le tourbillon et qui veut nous parler justement aussi des mesures à prendre à la hauteur de cette crise inédite dans l'histoire moderne, en tout cas contemporaine de l'humanité. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir Didier.
Bonsoir.
Écoutez, je pense que effectivement, on a la chance ou la malchance d'être au cœur ici en Moselle d'une zone rouge telle que présentée par le gouvernement, qui souffre depuis plusieurs semaines maintenant d'une situation extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Et ce que je retiens moi un petit peu de cette situation, c'est qu'en fait là, je crois qu'il y a, j'ai cru comprendre qu'il y avait le film Pinocchio dont il était question, qui devait sortir au début du confinement. Moi, je trouve personnellement que Pinocchio, il est sorti depuis bien avant le début du confinement, parce que Pinocchio, c'est un peu notre chef de l'État. C'est un jeune garçon qui a l'air bien gentil, mais qui en fait ment à longueur de temps pour essayer de faire croire à tout le monde des choses qui sont absolument pas avérées, qui sont absolument pas fondés et qui prend un peu tout le monde pour des neuneux, pour des imbéciles, pour des gens qui ne sont rien, j'en passe, c'est des meilleurs. Les mensonges les plus violents, effectivement, ont déjà été abordés maintes et maintes fois, hein, je reviens pas dessus dans le détail, mais il y a un certain nombre d'articles de journaux ou d'interventions de représentants du gouvernement. Très franchement, je veux pas être méchant, mais quand on les lit, quand on les entend, on est obligé de vérifier si c'est sur BFM ou si c'est sur le Gorafi. Parce que il y a des trucs qui sont absolument incompréhensibles. Je parle même pas des mesures de confinement, déconfinement pour les écoles, pour les entreprises, etc. Qui, aujourd'hui, en France, peut dire qu'il comprend réellement quelles sont les règles à respecter? Très sincèrement, je pense pas qu'il y ait grand monde dans ce cas-là, et surtout pas les gens qui les rédigent. La situation, effectivement, je crois que c'est Marina Carrère-Dancos, hein, qui disait que le mensonge avait effectivement été prononcé concernant les masques en disant qu'on en avait assez mais qu'il fallait pas en acheter pour une bonne cause, parce que la bonne cause c'était d'en laisser suffisamment pour les soignants. Mais le problème c'est que si on ment pour éviter que les gens aillent en acheter pour eux parce qu'il faut en laisser pour les soignants, ben ça prouve bien par nature qu'on en a pas assez. Et là c'est une bonne cause à la mode un peu Corée du Nord quoi.
Et il faut dire que les soignants eux-mêmes dans le pic de la crise, hein, au moment où ils en avaient le plus besoin, étaient dans la pénurie absolue et qui bricolaient eux-mêmes des masques. On a vu beaucoup d'initiatives sur tout le territoire français, des personnes qui se sont mis en toute urgence à fabriquer des masques, à les coudre, des couturières, des couturiers, des gens qui allaient les distribuer et beaucoup de personnel soignant qui avaient un masque alors qu'il en fallait 10 par jour et qui péniblement gardait le masque avec l'efficacité très affaiblie, évidemment, tout au long de la journée. On a vu ça tout au long de la crise. Et beaucoup de personnel hospitalier, de médecins, d'aides-soignants, d'infirmières, de chefs de service l'ont déploré et l'ont dit haut et fort. Je me souviens encore de Jean-Paul Hamon qui disait « il faudrait peut-être sortir du Moyen-Âge » alors qu'on se targuait, on se vantait d'avoir le meilleur système de santé au monde, que le monde entier, paraît-il, nous enviait. Et là, on a vu aussi quelle était la vraie réalité des choses.
Beaucoup s'en plaignaient et malheureusement, un certain nombre ont été malades et un certain nombre sont décédés, sont plus pour le dire. Et je pense qu'il faut quand même pas oublier ça, c'est que le soignant, il est là pour soigner. Alors, il est bien évident qu'un soignant, quand il traite des gens qui sont contaminés avec un certain nombre de virus, il sait qu'ils ont des risques, mais encore faut-il que l'État, en l'occurrence, lui donne les moyens de se protéger face à ces risques. Et j'ai cru voir, il y a quelques jours ou quelques semaines, qu'une cagnotte type cagnotte litchi, alors maintenant, on fait des cagnottes litchi pour un oui, pour un non, dès qu'il se passe un truc, on se casse la jambe, on fait une cagnotte litchi pour acheter ses béquilles, ça devient n'importe quoi. La cagnotte litchi, a priori, a été montée concernant, ou équivalente, concernant l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et moi, je suis désolé, je donnerai pas d'argent à cette cagnotte. La cagnotte litchi de la PHP, elle existe déjà, ça s'appelle les appos. C'est pas plus compliqué que ça.
Je le disais précédemment, quand on voit, on ne peut pas dire, en plus, c'est ça quand même le pire dans tout ça. Hein. c'est qu'on ne peut pas dire que dans l'ensemble, j'ai regardé un petit peu les chiffres d'ailleurs, parce que il faut toujours se comparer, hein, qu'on ne peut pas dire que les citoyens français ne financent pas la santé en France. C'est un des secteurs et un des pays où on finance le plus la santé. Et c'est pour ça qu'on est quand même éberlué de voir qu'il n'y a pas de masque, qu'il n'y a pas de test, qu'il n'y a pas de lit, qu'il n'y a pas de respirateur et que ce fameux système de santé, alors qu'il y a beaucoup de fonctionnaires aussi dans l'hôpital public, mais sans doute il y a beaucoup trop d'administratifs, beaucoup de moyens qui sont alloués, alors en plus avec des lois qu'on a fait sur le partage du temps de travail qui n'a créé aucun emploi mais qui a complètement désorganisé l'hôpital, hein, parce que évidemment on a dit aux gens travaillez moins et vous aurez du temps, mais s'ils ont pas de fric pour utiliser leur temps, ils sont bien qu'est-ce qu'ils font de leur temps, vous voyez, ben, qu'est-ce qu'ils font, pour la plupart ils font du noir, hein. Et on en parlait tout à l'heure, c'est un peu la soupape aujourd'hui quand vous avez une fiscalité qui est très confiscatoire, qui est très importante, aussi bien sur les salaires que pour l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, ben, qu'est-ce que vous faites? Et on le voit beaucoup dans les petites villes, on le voit à la campagne, ben, les gens travaillent au noir parce que c'est impossible, quoi. Donc vous avez deux systèmes par cette fiscalité qui n'est pas, qui est très importante malgré tout, hein, puisque même sur les petits salaires, ça pèse très très lourd, c'est très vite confiscatoire. Et en plus, vous avez la fiscalité indirecte avec les communes, la taxe d'habitation, etc. Et autres joyeusetés pour l'énergie. On en a parlé souvent sur Sud Radio. Et chaque fois, on vous ponctionne. Et on se dit, mais où va l'argent, quoi? Où va l'argent? C'est ça. On est à un tel niveau de prélèvement obligatoire que légitimement, on est en droit de se poser la question.
Moi, j'avais entendu le premier jour où les hypermarchés ont eu le droit de vendre des masques. J'avais été intéressé par l'intervention du patron d'une grande entreprise, en l'occurrence Lidl pour ne pas la citer, qui expliquait qu'ils étaient absolument clean quant au fait de ne pas avoir fait des stocks de masques au détriment des personnes qui en avaient besoin, et que initialement ils avaient stocké uniquement les masques dont ils avaient besoin pour protéger leurs employés, et que maintenant qu'ils avaient le droit de les vendre, ils pouvaient en mettre en vente. Et par rapport au nombre d'employés Lidl en France, d'après ce que j'ai pu trouver sur Internet quand j'ai entendu cet intervenant, j'ai comparé et effectivement, si je calcule bien, ça voulait dire que Lidl, durant la crise, avait stocké 200 masques par employé pour répondre à leurs besoins. Alors, je ne sais pas si ce qu'ils en font, s'ils doivent les manger ou jouer aux cartes avec, mais moi, personnellement, je ne considère pas qu'un employé d'une entreprise fuse de distribution comme Lidl ait besoin de 200 masques par personne pour être protégé. D'autant plus que dans les salariés de Lidl, ça comprend l'ensemble du personnel, pas forcément ceux qui sont au contact des clients. Et donc, on nous dit, non, mais nous, on est clean, toutes les grandes enseignes, on dit, on n'a absolument pas fait de stock, absolument pas fait de surenchère, etc. Moi, un patron d'une grande entreprise qui nous dit 200 par personne, ça me paraît bizarre, quoi.
Non, mais la vérité, j'en ai parlé il y a quelques jours. En mars, nous avions fait une enquête à Sud Radio pour expliquer cela, en fait, qu'il y avait une pénurie de masques et que les masques, la commande de masques n'avait pas été honorée, puisque c'était Xavier Bertrand à l'époque qui avait inscrit ça au budget, qui était ministre de la Santé, qui avait dit il faut faire des réserves, etc. Bon. Et donc, chaque année, à partir de 2012, 100 millions de masques devaient être commandés. Et on s'est rendu compte assez vite, et d'ailleurs Libé, j'en ai parlé hier, a fait aussi de son côté une enquête très exhaustive, très précise, avec beaucoup de documents et de témoignages. Et en fait, entre 2012 et aujourd'hui, seuls 100 millions de masques ont été commandés. C'est-à-dire que seule une commande sur 8 ou 9 qui devait être honorée a été honorée. On s'est retrouvé avec 117 millions de masques de mémoire, hein, dont la plupart étaient périmés. C'était périmé en mars. On a livré notamment les territoires d'outre-mer avec des masques moisis. Quand on a ouvert la boîte, ils étaient complètement, les cartons, inutilisables. Voilà la vérité. La vérité, c'est qu'on a payé énormément. Les Français ont été mis à contribution pour financer, hein, tout ça, et que ces masques n'ont pas été commandés. Et quand on voit le nombre d'ARS, agences régionales de la santé, le nombre d'institutions, le nombre de feuilles dans le millefeuille, il y en a peut-être plus que 1000 d'ailleurs, et tous ces fonctionnaires qui dysfonctionnent, alors que les vrais fonctionnaires qui sont sur le terrain et qui demandent des moyens sont passés par pertes et profits. Alors aujourd'hui, on les applaudit et on reconnaît bien leur rôle tout à fait primordial dans la société française. Il y a sans doute Parce que c'est pas toujours plus. Nous sommes déjà un pays où nous avons énormément de fonctionnaires, peut-être le pays au monde où nous avons le plus de fonctionnaires par habitant. Mais encore faut-il que ce soit des fonctionnaires utiles. C'est pas la faute du fonctionnaire. S'il a il y en a qui ont des rentes de situation. Il faut oser le dire. Et dans la fonction publique territoriale, il y a beaucoup de népotisme. Nous le savons, malheureusement, c'est comme ça. Mais combien de fonctionnaires qui sont utiles ou qui sont valorisés à la hauteur de leur engagement pour le pays? C'est ça qu'il faudrait savoir. La Cour des comptes, chaque année, rend des rapports, de façon tout à fait officielle. Vous avez le président de la Cour des comptes qui va voir le Premier ministre, le président de la République, qui remet un rapport, on fait une conférence de presse, on fait trois photos. Des rapports qui sont hyper précis, qui mettent le doigt où ça fait mal, qui sont très complets, qui sont remarquables dans leur analyse, mais aussi dans leur rédaction. Vous avez vu un rapport de la Cour des comptes, à part caler des armoires dans les ministères, être suivi des faits? Jamais. Alors les cours régionales des comptes, j'en parle même pas. Donc on sait, c'est là, aussi bien pour les masques que pour la Cour des comptes, nous savons, c'est plus le temps du diagnostic, nous savons ce qui déconne, nous savons ce qui dysfonctionne, nous savons ce qui ne va pas. Sauf que de la coupe aux lèvres, c'est toujours ce dernier petit chemin. Hein, on fait un 100 mètres et dans les 80, on fait 90 mètres, on dit faut faire ça, puis on s'écroule et jamais rien n'est fait. Puis on empile avec des reports, hein, des dettes qu'on empile et puis on ne règle pas le problème. Voilà, selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, le vrai problème du pays.
Le vrai problème, effectivement, ça procède de ça. Il y avait un auteur américain au 19e, dont le nom m'échappe, qui expliquait la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est que le politicien, il pensait à la prochaine élection et que l'homme d'État pensait à la prochaine génération. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait compléter cette citation par la différence entre l'homme d'État, le politicien et le macronien. C'est que le macronien, il pense pas à la prochaine génération, il pense même pas à la prochaine élection, il pense à la prochaine occasion qu'il aura de satisfaire un lobby économique de préférence, qui permettra ensuite de renflouer des caisses plutôt privées que publiques si possible. On a bien vu là dans le débat ou pseudo-débat ou faux débat qu'il y a eu sur la chloroquine avec le professeur Raoult et toute la clique en face qui était opposée. Il y a eu quelques médias, y compris des médias nationaux, qui ont eu le courage de mettre en évidence les liens avec les différents grands labos internationaux de ces personnes.
Laboratoires, absolument. On l'a vu avec la retraite aussi, on n'en parle plus, mais on en a parlé. Voilà. La retraite, pareil, nous avons l'exécutif qui nous a vanté absolument la retraite par répartition, mais en fait, on sait très bien que par les mesures, alors pour l'instant c'est gelé en tout cas, c'est suspendu, mais par les mesures qui étaient en voie d'être adoptées, il aurait fallu avoir recours à de l'assurance privée, et que tout cela, on a beaucoup parlé de BlackRock, mais c'est pas le seul gestionnaire d'actifs, il y en a d'autres, et on voit bien que c'est au profit d'un secteur qui jusqu'à présent a toujours échappé à la convoitise des assurances privées, mais qui sans doute... c'est ça la vraie raison, c'est une capitalisation déguisée, on dit que c'est pour la solidarité. En plus, il y a un mensonge sur les termes, on est en plein dans Orwell, là. C'est le renversement orwellien. On dit que le mensonge c'est la vérité et que le froid c'est le chaud. Et du coup, comme ça, les mots n'ont plus aucune valeur.
Ouais, y a une chose surtout qui me choque depuis quelques années là, et notamment depuis l'élection du président actuel, c'est que avant, lorsqu'il y avait des scandales, on pense à Cahuzac ou à d'autres, les gens avaient quand même la dignité de démissionner. Aujourd'hui, depuis Richard Ferrand et compagnie, ben non, ils démissionnent pas, ils restent en place et ils sont plébiscités par leur système. Je veux dire, moi, ça me choque. Je reviens sur l'affaire Ferrand parce que c'était assez flagrant. Qui emprunte une somme parce qu'il va louer le bâtiment qu'il va acheter en finançant la somme pour sa compagne, etc. C'est un scandale, c'est un délit d'initié, c'est un détournement de fonds, c'est tout ce qu'on veut. Et ben, ce mec-là, il démissionne pas. Et il est plébiscité par le système en place. Et le gouvernement et le président disent non, mais en fait, c'est quelqu'un de bien. C'est rien, c'est du détail. Non, c'est pas du détail. Il a détourné 400 ou 500 000 euros que personne d'autre n'aurait pu détourner en faisant les choses correctement. Et depuis, on a moult
exemples. Il est vrai que nous avons un rapport à la démocratie qui est un peu particulier, puisque dans, par exemple, certains pays nordiques, Vous savez, vous vous souvenez de cette ministre qui avait acheté, je crois que c'était une barre de Mars, hein,
oui,
à 2,50 €, avec sa carte bleue professionnelle. Elle a été tracée, et elle a dû démissionner. Voilà, un coup de barre Mars et ça repart. Nous, ça serait plutôt un coup de barre et ça repart, mais dans le mauvais sens. Hein.
Alors que nous, c'est un coup de barre, mais ça louvoie en fait. On ne sait jamais où ça va. C'est du en même temps droite-gauche prétendu, mais au final, ça ressemble à rien. Et je parlais des lobbies, et ça me fait penser à quelques articles que l'on a pu voir ces derniers jours sur, notamment en termes de lobbies, la question des bébés qui sont en attente d'acheteurs, en Ukraine notamment. On n'en parle pas tellement, mais je pense qu'en Inde ou aux États-Unis, ça va être la même chose avec la fermeture des frontières. Des bébés qui ont été commandés sur catalogue par des adultes en France notamment au titre de la gestation pour autrui, comme ça s'appelle pudiquement pour pas dire mère porteuse, bah c'est pareil, c'est une question de lobby, une question d'argent, et aujourd'hui on voit bien les limites du système, c'est qu'on a une situation avec des enfants qui sont abandonnés à la naissance par la femme qui les a portés au titre d'un contrat commercial. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces pauvres bébés? Ils n'ont rien demandé à personne. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter sur ce que les parents « acheteurs » entre guillemets feront par la suite. Et aujourd'hui, on constate bien que ce genre de scandale n'est même pas vu comme scandaleux, parce que on sait très bien que la GPA, c'est interdit en France, que vous avez des gens comme Marc-Olivier Fogiel qui en font la pub, qui passent sur tous les plateaux télé, qui écrivent des bouquins et qui sont acclamés tels les soignants à 20h, alors qu'au départ, ils font quelque chose d'illégal. Moi, je sais pas, j'essaye de respecter
moi,
la loi.
Moi, vous savez, mais moi, je suis peut-être un peu réac hein, sur le sujet, mais j'avais dit très vite, j'ai fait un certain nombre de tribunes, si vous avez lu, il y a même déjà longtemps, sur la GPA. Bon, évidemment que le mariage homosexuel, etc., hein, très bien, moi ça m'indiffère complètement, mais on pouvait imaginer quand même que derrière il y avait ce droit à l'enfant, et moi je préfère les droits de l'enfant, parce que il est évident, mais là j'assume complètement mes propos et je m'en cache pas, je trouve qu'on on n'est pas loin de l'eugénisme, parce que c'est forcément une sélection par l'argent. Comment vous allez contrôler ensuite les gens qui... Vous parlez de catalogue, effectivement, on va sélectionner un certain nombre de critères, vous le voulez comment? Blond, yeux bleus, 1m80, etc. Que fera-t-on des enfants atteints de trisomie, par exemple? Que fera-t-on des enfants inadaptés? Que fera-t-on des enfants handicapés? Est-ce qu'ils ont un cœur, un cerveau? Est-ce qu'ils ont le droit de vivre? Est-ce qu'on est dans le meilleur des mondes? Eh ben oui, moi je pense qu'on a mis le doigt là dans un processus qui est très dangereux, et le droit à l'enfant, c'est pas un caprice. Hein. Je veux dire, ben voilà, on peut pas avoir d'enfant, il y a beaucoup d'enfants à adopter, et moi je suis extrêmement choqué, et tant pis si je choque, je l'assume, sur ces histoires de catalogue, parce qu'on sait très bien, déjà, il y a certains pays, on va pas rappeler la liste, elle est déjà assez longue, où on peut, comme ça, aller concevoir, pas très loin de la France, il suffit de passer la frontière, hein. Et c'est quand même une sélection par l'argent. Et donc, voilà, et par l'argent, ensuite, on va pouvoir se composer une identité avec l'enfant de nos rêves, pour satisfaire nos caprices. Et moi, je trouve ça assez dangereux.
Voilà, pardonnez-moi, Didier, mais je trouve que vous êtes dans l'euphémisme quand vous dites... On pouvait se douter que peut-être. J'ai eu l'occasion d'assister à un colloque dans une grande université parisienne, hein, au niveau Panthéon-Sorbonne. C'était fin octobre 2016. Le colloque traitait du droit de la GPA. Il y avait toutes les pontes, toutes les têtes bien pensantes du circuit, Caroline Mécari et comparses, et un certain nombre de professeurs de droit, etc. Eh bien, encore une fois, dans une université publique, s'est tenu un colloque d'une journée auquel j'ai assisté, par curiosité, pour comprendre un petit peu les enjeux et les problématiques. Et de ce colloque, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu d'une part qu'on prône dans une université publique une pratique illégale et qu'on la promeut de façon éhontée. Et d'autre part, surtout, pour revenir au fait qu'on imaginait que peut-être il y aurait la GPA qui pourrait suivre, et encore la PMA sans père qui arrive avant, les interlocuteurs, convaincu que dans la salle, on était, je sais pas, une centaine de personnes, ne se tenaient que des partisans férus du commerce des enfants, eh bien, ils ont dit très clairement, mais depuis les années 80, on a travaillé pour le PACS, puis pour le mariage, puis pour la PMA sans père, puis pour la GPA. Et le plan, pour nous, il était clairement tracé sur 30 ans. Je vous dis ça, c'est ce que j'ai entendu dans une université publique, dans un colloque. Hein. C'est pas des trucs sur des sites complotistes. Hein. Et donc, c'était tracé sur 30 ans. Nous savions que nous devions aller étape par étape, que nous devions faire un petit peu... Vous savez l'histoire de la grenouille dans l'eau tiède? On met une grenouille dans une bassine et puis on met dans l'eau froide et puis
elle ne se rend pas compte.
Elle s'engourdit et finit par mourir. Et là, c'était exactement ça qui était décrit. Et donc, nous sommes contents parce que bon, enfin, on va arriver à la GPA, on va enfin pouvoir être libérés, délivrés de toutes les contingences physiologiques, hommes-femmes, etc. Je vous rappelle quand même Elisabeth Guigou, hein, qui disait au moment de la loi Taubira, en 1999, lorsque j'ai présenté le projet de Pax, j'ai menti parce que les Français n'étaient pas prêts à entendre que le mariage allait suivre. Et elle a dit devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale, jamais, jamais un enfant a besoin d'un père et d'une mère, jamais je serai pour le mariage, etc. Ben si, en fait, elle était pour, sauf qu'elle pouvait pas le dire. Donc je veux pas épiloguer trop là-dessus, mais c'est effectivement ce qu'on retrouve dans le problème de confinement et fermeture des frontières.
Voilà. Non, mais nous verrons. Vous savez, moi j'ai un voisin qui est psychologue pour enfants. J'en ai souvent parlé avec lui et je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, écoute, rendez-vous dans 20 ans, on verra quels seront les dégâts psychologiques sur ces enfants. Quand on est père, ce qui est mon cas, c'est déjà difficile d'élever ces enfants qui nous appartiennent pas, hein, qui sont notre chair et notre sang, on leur donne une éducation, on essaie de faire au mieux. Parfois, ça nous échappe, hein, et il n'y a pas de brevet, hein, pour être un bon père ou une bonne mère, c'est déjà très très compliqué. Je trouve que là on va un peu dans si on brise ce tabou là, hein, de finalement comment créer la vie. Et je suis pas du tout dans des propos d'intégrisme catholique ou que sais-je. Moi je suis par exemple pour l'avortement dans des circonstances très très douloureuses souvent, hein, on choisit pas d'avorter, hein, pour la on n'avorte pas par plaisir, hein, mais justement c'est déjà des affaires très très sensibles, très compliquées. Je trouve que ce désir, ce caprice d'enfant à tout prix, avec une sélection par l'argent, ne doit pas faire école et doit être interdit. Et pour l'instant, les différents comités, les lois bioéthiques l'interdisent en France et c'est heureux. Et j'espère que ça durera, mais rien n'est sûr en la matière, puisque là, on fait effectivement allégeance à beaucoup d'associations minoritaires, mais qui parlent très fort et très haut. Oui. Et si on dit le contraire, on est accusé de tous les maux de la terre. On vous dit intégriste, on vous dit complotiste, on vous dit je sais pas quoi. Peu importe. On a aussi le droit de défendre une certaine normalité dans la chaîne de la vie. Laisser faire la vie, ma foi, c'est aussi pas trop mal.
Alors, nous ne sommes pas dans une émission littéraire, mais si je peux juste me permettre de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour recommander un ouvrage sur les sujets qui tournent autour de la maternité et de l'enfance, et notamment de ce qu'un enfant peut subir comme traumatisme durant la grossesse de sa maman et aux abords de la naissance. Je recommande très vivement pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être se posent des questions sur la GPA en se disant « bah ouais, mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des traumatismes ?» etc. C'est un livre qui s'appelle « Un cri secret d'enfant ». Qui est écrit par une psychothérapeute belge qui s'appelle Anne Schaub-Thomas, mais avec le titre vous trouverez facilement. C'est une dame qui travaille depuis 20 ou 30 ans sur les problématiques et elle a réussi, et elle explique un certain nombre de cas dans son ouvrage, avec des personnes qui ont 15, 20, 30 ans. Elle arrive, en comprenant leur histoire autour de leur grossesse, autour de leur naissance, à régler des traumatismes, à régler des problèmes psychologiques, des souffrances, des choses extrêmement douloureuses. Parce que elle arrive à comprendre ce que vit un enfant aux abords de ça, parce qu'elle a fait toute sa carrière là-dessus de recherche, et c'est un livre qui est vraiment très très bien. Et quand on a lu ce livre, je ne comprends pas qu'on puisse encore être pour la GPA ou ce genre de choses. Je ferme la parenthèse parce que c'est vraiment un cri secret d'enfant que je recommande vraiment très chaleureusement, et j'ai pas d'action chez l'éditeur.
Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage.
Oui. Juste un truc pour finir rapidement, je voudrais pas trop tarder. Les obsèques qui ont réuni à Compiègne 600 personnes il y a quelques jours, là, ça a fait un petit peu de bruit dans la presse, mais pas trop, parce qu'il faut pas trop en parler. Je me souviens qu'il y a un mois ou deux, il y avait un monsieur qui allait voir son papa mourant sur l'île de Ré, qui avait été refoulé par la gendarmerie. Ça n'est pas grand monde. Et là, on a 600 personnes, je rappelle que les obsèques, c'est 20 personnes max. Donc en gros, on en prend 30 fois plus. Et le maire de Compiègne dit non, mais c'est pas très grave. Ah si, c'est 20 fois plus. C'est comme si on conduisait avec 15 grammes d'alcool dans le sang au lieu de 0,5, quoi. c'est quand même quelque chose d'important. Et la dernière chose, pour tout à fait terminer, c'est que je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre, parce que dans les contrôles, notamment en période de confinement, je pense très sincèrement qu'on leur donne des consignes qui sont inapplicables. Les consignes sont incompréhensibles. Personne ne sait à quoi on a droit, à quoi on n'a pas droit, en fonction de plein de critères différents. Et le principe même d'une attestation signée par son bénéficiaire, ben, ça aussi, c'est complètement débile. Ça veut dire que chacun se fait sa propre règle. Et là encore, c'est comme si je me faisais une attestation pour rouler à 180 sur l'autoroute. Je me fais prendre au radar, je dis, ben, regardez, moi, j'ai le papier, j'ai le droit de rouler à 180. Oui, c'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Ben non, l'attestation, c'est complètement débile. Il faut qu'on ait tous la même règle. Et à partir du moment où on signe sa propre attestation, la règle, elle n'existe pas. Et enfin, juste pour le mot de la fin, c'est la recherche d'immunité qui est recherchée par nos dirigeants, avec ce que j'appellerais le syndrome du sang contaminé, la volonté de signer des papiers pour dire on ne sera pas poursuivi si jamais on n'a pas fait ce qu'il faut. Mais les gars, le courage politique, ça ne rappelle rien, quoi.
Oui, on a vu cette loi.
Il prétend ressembler à De Gaulle.
Cette disposition qui a été votée. Qui a été voté par le Sénat, il faut bien le dire aussi. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne soirée.
Oui, c'est comme ça. Merci beaucoup, Christophe. Allez, on va écouter un petit peu de musique. On a retrouvé Michel, hein, qui pourra poursuivre son propos. On va s'écouter un petit Hubert Félix Thiéphen, l'homme politique, le Roll Mops et la cuve à mazout. Tout un programme.
Tu redescends chez ton opium, y retrouver tes sœurs perdues. Tes chimpanzés qui nous déloquent dans tes pissotières. Des saluts chez les vieilles qui trafiquent le spleen, ta bouffe et tes nerfs et tes nuits. Et maintenant tu cherches une combine pour domestiquer et nos envies. Oh papa, t'as encore brisé l'overdose, tellement le pouvoir ça te shoote. T'es aussi coincé qu'un Roll Mops tombé dans une cuve à mazout. Militants parcourent les foires, tournant leur regard rédemption. Mais coincés dans cette vieille histoire, à quoi nous servent tant d'illusions? Moïse qui a perdu la foi joue le veau d'or au strip poker. Et Jésus descend de sa croix en faisant claquer sa portière. Oh papa, tes militants réclament leur dose, t'as qu'à leur montrer tes biroutes. T'es aussi coincé qu'un Roll Mops tombé dans une cuve à mazout. Descends la même rue, la même histoire, le même jeu. Les maîtres des voies sans issue t'ont offert un combat foireux. À quoi bon contrôler le vent quand il souffle sur les musées? T'es comme une godasse des migrants au milieu d'un bouquet fané. Oh papa, tu tournes en rond dans ta psychose. T'es qu'un dealer de blackout. T'es aussi coincé qu'un Roll Mops tombé dans une cuve à mazout. Oh mazout. Thank you. suburbain, bouffon d'une reine sanguinaire, avec le masque de Cain et les doigts sur un revolver. Et tu remets ta panoplie d'écarisseurs intérimaires. T'immole pour nous, Iphigénie, au rayon des soupes populaires. Chez les Malinoffs de ton pouvoir, laisse aucun doute, t'es aussi coincé qu'un Roll Mops tombé dans une cuve à ma chute. Oh papa, y'a du sang chez les Malinoffs, et fais gaffe à la dernière goutte, t'es aussi coincé qu'un Roll Mops tombé dans une cuve à ma soupe. Oh papa, y'a du sang chez les Malinoffs, mais fais gaffe à la dernière goutte, on est des milliers dans nos box à te préparer la déroute. Oh papa,
Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, Didier Maistre.
Eh oui les amis, vous êtes bien sur Sud Radio, dernière ligne droite, il y a du sang chez les Malinoffs, oh papa. Et il faut toujours écouter Hubert Félix Thiéfen, grand poète parmi les poètes, dont on s'apercevra un jour à quel point il a été important pour la poésie et pour la chanson française, mais il est assez discret. Et on ne le voit pas beaucoup dans les médias grand public, mais peut-être simplement, j'ai lu ça un jour, parce qu'on ne l'invite pas. Donc nous avons retrouvé Michel de Nîmes qui avait un rêve, I had a dream, et qui va, mais malheureusement au moment où il a dit le mot patrimoine, ça a coupé, et donc il doit y avoir comme ça des petites puces dans les réseaux qui, quand ils entendent des mots, tac, c'est des stimuli pavloviens, ça coupe. Alors allez-y, on va refaire un essai avec le mot patrimoine, et pour l'instant ça tient. C'est à vous Michel.
Patrimoine. Oui voilà.
Ah oui, donc patrimoine. Qu'est-ce que j'ai dit?
Merci Didier. Donc en fait effectivement, travail, labeur, souffrance, stop aux impôts sur le travail, stop aux impôts sur le labeur et la souffrance, stop sur tout ce qui est impôt sur ce qu'on fait pour pouvoir gagner des sous, pour s'en sortir, enfin bref. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on avait inventé, mais finalement, il ne devrait y avoir pratiquement plus que ça, c'est l'impôt sur les éléments de patrimoine. Si vous travaillez, vous vous enrichissez. Si vous vous enrichissez, à ce moment-là, bah, par tranche, vous devriez pouvoir être capable de payer un tribut à cette société qui vous a permis d'avancer, d'avoir un peu plus de sous à pouvoir dépenser. Et puis, il y a autre chose.
Bon, il y a déjà un impôt, vous avez vu, sur le patrimoine. Hein. Aujourd'hui, oui. C'est l'IFI, oui. C'est plus l'ISF, voilà. Donc, oui. On sait qu'aujourd'hui, que par exemple l'ISF, il y a une portée symbolique très forte hein, dans un pays qui quoi qu'on en dise reste très égalitaire. Mais en fait, on se rend compte que les très riches sont déjà organisés et sont déjà partis, ont déjà quitté la France pour des pays d'ailleurs connexes hein, qui sont même au sein de l'Union européenne. Et en fait, cet impôt ferait fuir, d'après les spécialistes, hein, les derniers gros détenteurs d'immobilier. Voilà, moi je vous dis ce que disent les spécialistes.
Didier,
voilà,
après, Didier, tout simplement,
vous me dites ce que vous pensez.
Voilà. Faisons comme les Américains, Didier. Vous êtes français, bah vous devez payer n'importe où vous vous trouvez, là, vous payez pour votre patrie qui vous a éduqué, qui vous a permis, et tout ça on en a entendu parler dans certaines émissions. Mais voilà, les Américains, ils savent retrouver ceux qui sont des Américains.
Bon, c'est vrai que même, ils en abusent pour piquer nos entreprises avec l'extraterritorialité de leurs droits qui leur permet en disant, ah, mais tel jour, à telle heure, vous êtes citoyen américain, ou vous utilisez, vous êtes citoyen anglais ou italien, mais vous utilisez un logiciel américain, un mail, vous êtes bien, vous avez bien Gmail, eh bien, le 14 août à 17h43, vous avez fait ça, et maintenant vous allez payer, parce que le droit américain, partout sur la planète, et c'est comme ça qu'ils nous ont piqué Alstom, ça s'appelle du patriotisme économique avec une extraterritorialité, ce qui est encore un concept hyper sophistiqué, de dire que partout, on est chez nous sur la planète, et que on plante un drapeau, ils l'ont fait sur la Lune, et on dit « This is mine, c'est à moi, ça m'appartient ». On en est très loin, nous, hein.
Non, mais Didier, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Didier. Franchement, ça, c'est pas génial. Non, moi, je me limite à une seule chose. Vous êtes ressortissant français. Vous l'êtes parce que vous êtes devenu français ou vous y êtes depuis longtemps. On s'en fout. Vous êtes ressortissant français. Vous avez un patrimoine, une partie en France, une partie Madagascar. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Une partie aux États-Unis. Bref. On va dire, voilà, vous avez tant, bah voilà, il faut donc vous débrouiller, mais bah après, c'est des tranches. Hein. Bon, il y a un truc, on peut faire plein de choses. Moi, je voudrais passer à autre chose, c'est la TVA. C'est la TVA,
c'est, alors voilà, c'est génial. C'est ce que je voulais, moi je dis peut-être qu'on va être d'accord sur cette fameuse TVA qui a été baptisée d'une manière... À un moment, on avait dit, vous vous rappelez, Fabius avait fait peur entre les deux tours, etc. TVA sociale, c'est très mal choisi comme mot. Mais en fait, moi, je trouve que la TVA... Alors là, il y a beaucoup de détracteurs, me disent, mais tu peux pas dire ça. Mais la TVA, je trouve que il faudrait plusieurs taux. Hein. Sans doute encore faire un effort pour les produits de première nécessité dont on ne peut se passer,
pas
etc.
Pas bon.
Mais après, alors moi je vous donne juste mon avis, après vous, voilà. Et ensuite, je dirais, pour les gens qui, plus on consomme, plus on paye sur des biens.
Oui,
et moi, ça me choque pas du tout. Vous voyez, par exemple, je trouve que c'est, tout le monde dit que c'est un impôt injuste, et moi je trouve que la TVA, c'est un impôt juste.
Vous consommez, vous détruisez quelque part. Vous consommez, vous détruisez quelque chose, vous abîmez. Vous passez par exemple la TVA de 20 à 50%. Ben, ça va se passer comme en Allemagne avec la TVA sociale il y a quelques années. Les produits de base vont baisser. Le produit hors taxe va baisser. C'est-à-dire votre produit qui valait
50, hors taxe, 50, c'est beaucoup 50 quand même.
Rien. Mais non, vous allez perdre 10%. Regardez, le produit hors taxe qui vaut 100, il va passer à 90. Ben, 100 plus 120, ça fait plus 20%, ça fait 120. Ben le produit, les produits vont baisser parce que ben forcément ça va faire baisser techniquement si vous voulez beaucoup de produits. Donc les produits vont baisser, ils vont passer on va dire à peu près à 90. 90 plus 50% de 90, donc 45, d'accord. 90 et 45, 135, donc vous passez réellement de 120 à 135 pour un produit. Ça c'est un exemple. Là, il y a quelque chose à gagner. Ensuite, bon, il y a pas mal de... Bon, on peut récupérer...
Mais vous êtes d'accord pour dire quand même que c'est un impôt... Un impôt juste dans la mesure où moi je suis d'accord avec vous sur taxer le travail à outrance. Je veux dire, bon, il faut bien payer des impôts parce qu'on vit dans une collectivité et chacun doit à la hauteur de voilà. Mais pourquoi sur le travail toujours, voilà.
Mais
ce que je veux dire,
non,
c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, il faut contribuer. Quand on vit dans une nation, on a des écoles, on a une justice, on a un système de santé. Il faut que chacun participe à la hauteur de ses moyens et de la façon la plus juste possible. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Après, moi, ce que je dis, effectivement, ça ne doit pas reposer sur le travail, mais je suis d'accord pour dire avec vous que ça doit plus reposer sur la consommation plus que sur le travail. parce que finalement, vous pouvez aussi avoir une vie d'asset, hein, vous n'êtes pas obligé de consommer. Moi, je connais plein de gens qui consomment juste l'essentiel, qui sont pas du tout dans cet état d'esprit, qui c'est pas l'alpha et l'oméga de leur vie. En revanche, ils n'ont pas forcément l'impression de travailler, mais moi je sais que j'en connais qui travaillent beaucoup, mais qui aiment ce qu'ils font, et à un moment, ils pourraient créer plus d'emplois, ils pourraient développer leur entreprise, ou ils pourraient effectivement avoir plus d'argent de côté pour en faire ce qu'ils en veulent, mais là, on est très très durement taxé sur le travail, que l'on soit salarié, que l'on soit chef d'entreprise, et ça, c'est pas tout à fait normal. Mitterrand, dont je ne partage pas beaucoup de... Il disait l'argent qui dort. Hein, les gens qui font de l'argent en dormant. Alors ça, c'est un peu terrible aussi.
Oui, après, bon, franchement, je mets pas le doigt sur ni les gens, ni tout ça. Moi, je fais des propositions. C'est mon rêve. Et après, je voudrais parler aussi de l'âge légal de la retraite. Oh, l'âge légal, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ce qui est important, c'est la durée d'activité qu'on aura pu avoir. Et si on veut avoir que 20 années d'activité, ben on dit voilà, ben j'aurais une proportion beaucoup plus petite de ce que j'attendais. Mais qu'on laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, qu'on arrête de les embêter avec des conneries. Ah non, faut arriver à 65 ans, non, ce sera... Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries ? Laisser donner plutôt des durées éventuellement avec des minorations et des majorations en fonction de la pénibilité. S'il y a des gens, ils ont des activités, je dis même pas travail, des activités qui étaient super, mais ils peuvent partir même à 70 ans. De toute façon, ils s'en foutent, ils gagneront plus avant de partir en retraite. Il y a des choses qui sont tellement anormales. Mais il faut tout revoir dans ce monde, tout revoir. Je voudrais parler aussi d'autre chose juste avant de vous laisser. C'est le Conseil constitutionnel. Moi, il y a quelque chose qui je trouve incroyable. Tout le monde parle du président, de ses ministres, mais vous avez quelqu'un au-dessus, vous avez le Conseil constitutionnel. Ce sont des gens pour qui on n'a jamais voté et c'est eux qui décident de tout. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose à revoir ?
Oui, alors, enfin, le Conseil constitutionnel, hein, vous savez de quoi et de qui il est composé, c'est un peu, oh, je veux pas être inconvenant, mais c'est un peu la distinction suprême, le hocher pour service rendu par le personnel politique à la nation. Et donc, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État d'ailleurs, émettent, il y a des ordonnances, il y a des avis, c'est conforme, pas conforme, ça reste quand même des institutions. Je vais pas me faire des amis, mais tant pis, puisque j'ai une certaine habitude de cette pratique. Ça reste des institutions très politiques, hein, très politiques, et pas tout à fait juridiques. Et pas tout à fait juridiques. Voilà, on va dire ça comme ça.
Je voudrais juste vous dire quelque chose, Didier. Les gens qui se situent là-bas ne parlent jamais d'eux. Comment se fait-il que les Français, moi je vois Claire Bazy, Mallory, Nicole Maestrassi, plein de noms, mais 99% des Français ne les connaissent même pas. Et ils ne font rien pour se faire connaître tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui sont au-dessus du président de la République, qui vont dire c'est valide, c'est pas valide, tel vote, parce qu'en plus, c'est eux qui bricolent, enfin qui disent c'est valide ou c'est pas valide. Mais on les connaît pas. Il faudrait qu'ils fassent parler d'eux, ces gens-là. Voilà, je fais partie des neuf sages, et puis je suis là. Et voilà. Mais si vous voulez, il faut aller gratter pour savoir ce que c'est. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Non, mais on peut dire quand même pour le grand public qui n'est pas spécialiste de ces questions que le président du Conseil, pour étayer un petit peu mon propos constitutionnel, est Laurent Fabius, et que ce Conseil compte. Par exemple, Jacques Mézard, hein, que le personnel qu'on connaît bien dans le personnel politique, Monsieur Alain Juppé ou encore Valérie Giscard d'Estaing. Voilà. Donc je ne dis pas que ce... voilà. Non, alors effectivement, nous avons Claire Bazy, Mallory, Nicole Maestrachi, Michel Pinault de mémoire, Dominique Lottin. Corinne Lukens de mémoire, voilà.
Il faudrait qu'ils parlent d'eux, qu'ils disent voilà, nous on a fait ça. Voilà, les gens ne disent pas ce qu'ils font et c'est ça qui est dommage. Si vous voulez, ça laisse un flou et vous avez des tas de gens qui disent oui, mais lui, maintenant, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Enfin bref, vous voyez, C'est ça qui est dommage. On parle de certaines choses, on ne parle pas des autres choses.
Voilà, eh bien, merci. Merci. Merci en tout cas pour ce témoignage en deux fois, deux parties. Hein. C'est comme Game of Thrones. Vous avez le sens du teasing. bonne soirée Michel. Bonne soirée. Voilà. Eh bien, écoutez, le temps passe très très vite. Il y a encore beaucoup d'auditeurs hein, qui sont malheureusement en ligne que je ne vais pas pouvoir entendre puisque le principe sur Sud Radio, c'est d'avoir pas énormément de gens, mais que chacun puisse aller au bout de ce qu'il a à dire, de son coup de cœur, de son coup de gueule, de son analyse, de son témoignage, de son partage d'expérience dans ces temps très particuliers. Donc, allez, je vais vous lire. J'ai commencé avec une petite poésie. Vous me direz si vous avez trouvé, si vous en avez trouvé l'auteur. Je vais finir avec un poète que j'aime bien, Rainer Maria Rilke. Et donc, je vais vous lire ce texte. Ce sont les sonnets à Orphée. Et c'est le sonnet 19. Le monde aurait beau être aussi changeant que les nuages, quand achevé, tout fait retour au temps des origines. Changement marche au-dessus d'eux et plus vaste et plus libre, présent encore et ton antéchant, Dieu qui porte la lyre. Souffrir n'est pas simple à connaître, aimer n'est pas matière apprise, ce qui dans la mort nous éloigne n'est pas dévoilé. Seul le champ au-dessus de la terre est fait sanctifiant. Voilà, j'espère que vous apprécierez ce poème à la hauteur de sa valeur. Lisez les poètes dans ces temps, comme je le disais, un peu particuliers. Ils nous disent beaucoup de choses, sans doute. La poésie atteint le mystère, l'inaccessible, ce que le roman a du mal, ou l'essai philosophique a du mal à percer. Souvent, la poésie atteint des vérités beaucoup plus profondes, beaucoup plus enfouies, beaucoup plus symboliques, par des images, par des mots mis comme ça, côte à côte, et particulièrement bien choisis. C'est le signe des grands poètes. Eh bien, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai suivi mon ami Yvan Cujus, j'étais bien précédé, il a rendu hommage à Nilda Fernandez. Et il a cité d'ailleurs Claude Nougaro. Il parlait de Nilda et il disait « Ce n'est pas un homme de 5 minutes ». Alors Yvan Cujus n'est pas un homme de 5 minutes. Moi j'aime les gens qui ne durent pas 5 minutes comme ça justement. Et puis je suis suivi, j'ai une grande chance, par Muriel Hermine qui n'est pas une femme de 5 minutes, qui l'a prouvé dans sa vie sportive, dans sa vie artistique, dans ce qu'elle a fait ensuite, toutes ces études de coaching, cette remise en question, essayer d'aller plus loin, essayer d'apporter son expérience, son cœur et sa passion pour les autres. Et donc, c'est sa deuxième soirée sur Sud Radio. Bonsoir, mademoiselle Muriel, comment ça va ce soir ?
Bonsoir Didier, écoutez, je vais très bien, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir, effectivement pour la deuxième émission, c'est toujours un challenge pour moi, surtout de passer derrière vous.
Oh non, et pas de flagornerie, attention. Hein, sinon
ah non, mais il n'y en a pas en plus, je le pense vraiment. Non, non, entre sportif et ancien nageur, en tout cas ancien aquatique, non, je suis vraiment sincère.
Bon, en tout cas, je vous souhaite tous une bonne soirée les amis. Avec Muriel Hermine, elle sera excellente. Salut à tous, portez-vous bien. Bonsoir Muriel, et on se retrouve demain.
Belle soirée, 22h30
tous les deux.
Hein. Avec grand plaisir.